Europe 1. Europe 1, Culture Média.
9h30, 11h.
Thomas Hill.
Bonjour à tous et bienvenue dans Culture Média. Et bonjour aux trois mousquetaires qui m'entourent, Anissa Dadi, Jean-Luc Lemoine et Julien Pichenet.
Bonjour Thomas.
Qui est Porthos?
Devine. Alors, aujourd'hui on va bien sûr rendre hommage à cet homme de culture et de média qui était Bernard Pivot. On lui consacrera une page spéciale tout à l'heure avec des réactions et puis quelques grands moments de télévision. Julien, vous aurez sélectionné quelques-uns.
Il y avait de quoi faire, parce que des grands moments d'apostrophe, il y en a eu quand même.
Il y en a eu beaucoup. C'était une autre
choix difficile.
Et puis nous avons le plaisir de recevoir ce matin un autre monument de la télévision, Antoine Decaune.
Bonjour
Antoine,
vivant.
Toujours là, toujours vivant. Vous nous préparez pour le Festival de Cannes qui démarre dans 7 jours. Une quotidienne sur Canal+, une quotidienne de 17 minutes très précisément. C'est bon, vous avez vos costumes, vos nœuds papes.
On est prêt, on a enfin trouvé le titre. On s'est creusé pendant 3 semaines et on l'a, ça y est.
Vous voulez nous le révéler maintenant?
Oui, je peux. Ouais. Ça s'appelle Cannes 2024.
Wow,
c'est énorme.
Qu'est-ce qu'on en dit?
On dit bien. Bravo.
Mais si, parce que ça dit l'essentiel. C'est vraiment bien. Et puis dans la deuxième partie, c'est un auteur auprès de 10 millions de livres vendus qui nous rejoindra. Le roi du polar, Franck Tillier, nous présentera son tout dernier roman que j'ai dévoré ce week-end. N'hésitez pas à réagir à cette émission avec le hashtag Europe 1. On est ensemble jusqu'à 11h.
9h30, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Thomas Hill.
Et comme chaque jour, on démarre cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoine. Et alors Jean-Luc, ce matin, nous recevons donc Antoine Decaune pour les nombreuses émissions cinéma qu'il anime sur Canal+.
Comme vous avez de la chance, Antoine. Ça va être tellement agréable de présenter une émission qui parle de sa passion. Hein. Je sais que Thomas adorerait avoir une émission qui parle des cheveux soyeux.
Oui, bien sûr. C'est du boulot.
Antoine, c'est un homme libre qui ne fait que des choses qui l'intéressent. Chez Combini, on vous demandait pourquoi vous n'aviez jamais participé à Danse avec les Stars.
Parce que je danse comme une merde. Je serais pas le premier, hein, on dirait, mais... Et je vois pas pourquoi j'irais perdre mon temps à essayer de danser alors que je ne sais pas danser.
C'est très honnête de ne faire des choses que l'on maîtrise, quoi, vraiment. Du coup, rapido, ça correspond à quelle partie de votre vie privée?
Je vous laisse juge.
Bien juste.
Antoine Decaune, c'est difficile d'être plus culte que lui. Il a pratiquement tout fait avant tout le monde. Même les clashs entre artistes, c'est lui. Car oui, Antoine a eu droit à une chanson contre lui.
À Pintan, sous le nom de Paul Père Savon,
c'est vrai.
Il écrivait pour sa maman tout plein de chansons,
c'est vrai.
Et là, trois fois, hélas, aucun succès.
C'est vrai.
Et c'est depuis qu'Antoine déteste Bernard Minet.
Oui, Antoine s'est fait clasher par les musclés.
Bernard Minet, ça s'est fait éternité, j'avais pas entendu parler.
Écoutez,
je me souvenais pas du tout.
Ça a été douloureux à l'époque?
Très, ouais. Très, j'en souffre encore. Oui.
Le clash Boubacaris à côté, on dirait une réunion Tupperware. Comment on se remet d'une épreuve pareille? Peut-être en s'en foutant. On a l'impression que tout glisse sur Antoine, c'est dont vrai. On découvre encore des facettes aujourd'hui. Et là, je ne parle pas de dents factices. Par exemple,
il y en a aussi.
Il y a
tout
le boulot.
Il y a tout.
Par exemple, peu de gens savent ce que vous préférez le plus dans la vie.
C'est un truc qui, quand on réfléchit, quand on lit, c'est très très agréable, une petite pipe.
Je vous vois la prévenue, Thomas.
Bien sûr.
Si vous voyez Antoine réfléchir...
C'est totalement hors contexte, là, je suis désolé.
Non, c'est très bien.
Comment ça, non?
Si vous voyez Antoine réfléchir ou lire, penchez-vous.
Bien sûr.
Et donnez-lui du feu. Voilà.
Mais ça sort d'où, ce truc-là?
C'était une interview ou c'était vos objets cultes?
Ah, les objets cultes, oui. Parce qu'on avait fait un sujet sur pour la Gaule d'Antoine à l'époque, sur la ville de Saint-Claude.
Ah,
j'étais encore un peu chaud là-dessus.
Capitale
de la pipe.
Dans le Jura.
Alors, Jean-Luc, pour votre session de rattrapage, vous nous aviez laissé hier au beau milieu des derniers épisodes de Pékin Express.
Oui, exactement. Enfin, Hanoï Express. Car ouais. Pékin Express, c'est comme Koh-Lanta ou le Paris-Dakar. Faut pas prendre au pied de la lettre ce qui est écrit dans le titre. Hein. C'est comme Silence, ça pousse. Si vous parlez, ça continuera à pousser. Non, mais je préfère vous le dire.
Ah oui, c'est vrai.
Alors, hier, je vous ai appris quelques mots d'anglais que Patricia et Jessica, les candidates corses, qui m'ont écrit d'ailleurs sur Instagram. Elles sont très clientes, justement. Alors, Antoine, je sais que vous êtes complètement bilingue. Pouvez-vous me traduire? Allez, allez, il y a des concurrents, soyez rapide.
Oh! Go, there are some challengers and they are very fast.
Wow.
C'est pas mal, mais on vérifie quand même avec Patricia et Jessica.
Go, there's a concurrence. Rapid.
Oui, c'est rapid.
Ah oui, on peut le dire aussi comme ça.
Le fameux Anissa Dadi Institute.
Bien sûr.
Donc samedi, c'était la finale. Mais bon, avant la finale, il y a eu quoi? Je vous l'ai dit hier, la demi-finale, où les candidats ont continué à faire de l'autostop.
It's a demi-final.
You are the best.
We play together.
Yes.
We are two winners.
T'imagines quand t'as pris deux autostoppeuses qui braillent comme ça tout le long du chemin, t'espères juste une chose, que ton GPS te dise ça.
À 50 mètres devant vous, il y a une falaise. Allez tout droit.
Voilà. Donc samedi, c'était la finale. Et si Pékin Express voulait finir au Vietnam, c'était pour faire des épreuves en lien avec le pays ou au moins la région.
Les candidats vont faire du karting. Ils vont devoir faire un tour de circuit en moins d'une minute.
Ouais, ouais. Si ça se trouve, le karting est un sport traditionnel vietnamien du 5e siècle avant Jésus-Christ. Et on n'était pas au courant. Et ils ont quand même rajouté une tradition bien vietnamienne dans cette épreuve. À l'arrivée du tour de karting, il fallait
taper dans un ballon et atteindre la cible qui est juste là.
Ah, voilà. Oui. Maintenant, on le sait, les traditions vietnamiennes sont mises à l'honneur avec le karting et le foot.
Typiquement vietnamien. Voilà.
D'ailleurs, en regardant l'émission, je me suis dit que j'aimerais bien les visiter à Hanoï pour me taper une bonne tartiflette. Laura monte la première dans le karting. A-t-elle réussi à mettre le ballon dans sa cible, à votre avis?
Oh putain!
En français, oh putain, ça veut dire oh, j'ai raté. Ouais. Romain réussit à marquer le but et Patricia aussi. Quel mot utilise-t-on pour fêter une victoire quand on est français?
Oh putain, elle est dedans.
Comme ça me gêne de répéter ce mot, je vais traduire. Oh, ça perd l'hypopète, le but est inscrit. Oh, ça perd l'hypopète, elle est dedans. C'est pourtant pas dur de châtier sur le gage, putain de merde. Quand Laura a enfin réussi à marquer son but, sa joie est venue du cœur.
Allez, allez.
Imagine, demain t'organises un grand jeu d'aventure, tu prends des Français, ils doivent passer des épreuves sans dire le mot putain, en deux heures t'as plus un seul candidat. Alors parfois dans Pékin Express, les candidats ont de la chance, comme Laura et Romain qui tombent sur un chauffeur qui leur fait gagner du temps. Pour les Corses, c'était un autre délire.
Leur chauffeur, qui n'a pas compris l'urgence de la course et qui voulait leur faire plaisir, est en train de faire un détour pour leur montrer un monument touristique.
Ça partait d'un bon sentiment, ça se transforme en loose.
Oh,
je suis pas sûr qu'elles aient vraiment apprécié de voir le temple Patchat. Finalement, Laura et Romain ont gagné, bravo à eux.
Il existe vraiment ce temple Patchat?
Je suis pas sûr.
À vérifier. Merci Jean-Luc Lemoine, qu'on retrouve demain. Et sur scène aussi, les 17 et 18 mai à la Comédie Le Mans, et le 19, c'est au festival de Brive-les-Bains.
Exactement.
Restez avec nous sur Europe 1 dans un instant, Culture Média avec votre invité Thomas. On va filer à Cannes sur la croisette, où t'es en train de te préparer le tapis bien, rouge, ouais. Ouais, on aimerait bien, hein, palais du festival. Le festival de Cannes 2024, on en parle dans un instant avec Antoine Decaune sur Europe 1. À tout de suite.
Europe 1.
Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas.
Bah oui, je reçois ce matin Antoine Decaune parce
bonjour.
Que le festival de Cannes bonjour, approche à grands pas. On est à 7 jours là du lancement, un festival durant lequel on vous retrouvera tous les soirs, hein, sur Canal pour une quotidienne. Alors qu'est-ce qu'il y aura dans cette émission à part vous, ce qui est déjà un atout considérable?
Ce qui est déjà un atout considérable, je ne vous fais pas dire. Bah, il y aura, en fait, on a déjà fait ça l'année dernière, on l'a aussi fait à la Mostra de Venise. C'est une pastille quotidienne qui dure environ 17 minutes, qui est constitué d'une ou deux interviews des forces en présence, que ce soit des réalisateurs, des acteurs, hein, tout ce qu'on veut.
Ouais.
Et puis l'ambiance générale, tout ce qui se passe là-bas.
Donc on va suivre la montée des marches aussi.
Les montées des marches avec Didier Alouche évidemment, et puis ce qui se passe à Cannes, hors le tapis rouge et hors les grandes projections.
Et il y aura aussi le palmomètre, ça revient ça?
Le palmomètre aussi.
Racontez-nous le principe du palmomètre.
Bah, le principe, c'est que ce sont les journalistes du Cercle qui viennent en quelques mots donner leurs premières impressions.
Et qui disent s'il a des chances ou pas d'avoir la palme.
Voilà, exactement.
Vous savez déjà quel invité vous allez avoir pour votre première, ou ça se joue au dernier moment, ce genre de choses?
La première, j'écoutais, je touche du bois, je vois qu'il n'y en a pas dans votre studio.
Touchez votre tête, non, touchez votre
tête. Ouais. Je rêve, j'espère qu'on va avoir Meryl Streep.
Ah
ouais,
wow.
Ouais, ce serait énorme. Rouler par terre pour avoir Meryl Streep, que je n'ai jamais interviewée, et qui est une actrice que je vénère plus que tout autre.
Et comment ça se joue, la programmation de ce genre d'émission? Est-ce que c'est vraiment au jour le jour, en fonction de ce qui se passe à Cannes, que vous arrivez à décrocher des
artistes? C'est le jeu, c'est un peu ce qui s'est passé aux Oscars cette année, où je suis allé faire un tour avec mon ami Didier Alouche.
Ouais.
C'est un peu une foire d'empoigne, quoi. On a l'impression d'être au salon de l'agriculture, des maquignons, avec, vous levez le numéro, moi. Faut être bien avec les publicistes, faut être bien avec les distributeurs, faut être bien avec... Enfin, il y a tout un petit jeu en coulisses.
Vous-même, vous y allez? Vous essayez de décrocher?
J'ai passé l'âge de cette connerie.
Ah oui, c'est ça. Vous êtes programmateur pour ça.
On a une équipe d'enfer qui s'occupe de ça. Mais voilà, c'est rien n'est sûr.
Ouais.
Rien n'est sûr, jusqu'au dernier moment.
Et alors, l'année dernière, c'est Anatomie d'une chute, hein, de Justine Triet, qui avait remporté la fameuse Palme d'Or. Mm-hmm. Cette année, il y a un film qui est très attendu au festival, c'est Mégalopolis de Francis Ford Coppola, un budget considérable, 100 millions de dollars, autour de la destruction, la reconstruction d'une mégalopole.
Ah bah c'est ça, dès que vous détruisez une mégalopole, hein,
voilà.
100 millions de dollars, je trouve même assez
c'est
raisonnable.
Pas si cher. Ça en fait un des favoris, a priori. Vous en avez d'autres?
Je suis très impatient de voir Coppola, moi, évidemment, comme tout le monde, parce que ça fait une éternité qu'on attend un nouveau Coppola. Est-ce que moi j'ai un favori.
Est-ce que vous voyez les films en avance, par exemple?
Oui, oui, toujours.
Là, vous avez
toujours.
Déjà un peu vu.
Ah ben, en avance, non. Ici à Paris, j'ai vu. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu Mad Max et le Kevin Costner. Alors, vous savez, vous devez signer des clauses de confidentialité. Mmh. J'ai pas le droit d'en dire quoi que ce soit.
D'accord.
Que c'est bien, que c'est pas bien, etc. Mais
clignez deux fois de l'œil si vous avez.
Voilà. Voilà. Dans le Mad Max, un tour de roller coaster comme d'habitude, absolument génial, dont je ne dévoilerai rien.
D'accord.
Si ce n'est qu'il y a beaucoup de punk à chien et de la musique de son derrière. On voit. Là, par exemple, je sors de votre émission, je vais voir le film de Quentin Dupieux qui fait l'ouverture.
Ah, super. D'accord.
On essaie de s'avancer un peu. Parce qu'après, quand on est pris dans l'énergie canoise, soit on va au Projo du matin à 8h30. Qui sont un peu chaudes ou alors c'est difficile parce qu'il y a des projets dans la journée, mais si on est occupé à aller faire des interviews, donc on a intérêt à prendre de l'avance.
Bon,
c'est
et
pas très passionnant tout ce que je vous raconte.
Ah si, c'est passionnant. Vous parlez des films, par exemple, quand vous allez voir une projo à Cannes, vous êtes plusieurs journalistes, plusieurs animateurs, vous en parlez après, vous débriefez, comment
ça dépend du film. Honnêtement, non, on fait pas de débrief après, non. Mais ce qui est marrant, c'est la projo de la fameuse projo de 8h30 pour la presse, parce que c'est très tôt, 8h30 à Cannes.
Puis il y a des fêtes la veille souvent.
Ça va jusqu'à tard dans la nuit. Mais cette projo-là est très révélatrice. Parce qu'en fait, vous voyez, vous savez déjà au feeling de la salle comment le film va être reçu.
Ah, vous le sentez tout de suite. Et puis à Arcane, c'est vrai que ça se passe aussi beaucoup en antenne, dans les soirées. C'est aussi pour ça que tout le monde y va, j'imagine. Est-ce que c'est
non,
toujours
c'est,
aussi...
Non, alors c'est pas pour ça. Il faut que ce soit clair quand même. Cannes, c'est un marché.
Ouais.
C'est-à-dire c'est un endroit où on achète, où on vend des films, où on monte, on fait des montages financiers. Donc c'est pas seulement un festival de pur cinéma comme la Mostra de Venise, c'est un marché. Donc c'est pour ça qu'il y a autant de monde, c'est pour ça qu'il y a autant d'affaires qui se font là-bas. Et que ça se mélange, que c'est aussi poreux entre la partie artistique des films et la partie financière.
Et est-ce qu'il y a vraiment tant de fêtes que ça?
Oui,
et est-ce qu'il y en a autant qu'il y a 20 ou 30 ans? Parce que vous avez connu aussi.
Je ne peux pas faire de comparatif, parce que moi je fuis les fêtes.
Ah oui, d'accord.
Je fuis littéralement les fêtes le soir. Moi, je suis au lit à 10h30.
Ah,
j'ai un bonnet de nuit à Cannes.
Vous êtes à la Projo à 8h30.
Je suis à la Projo de 8h30, ou alors si j'ai une Projo, il peut m'arriver d'aller à la Projo de minuit. Il y a aussi des Projos en compétition à minuit, mais non, je ne suis pas du tout un fêtard.
Parce
contrairement à la légende.
Bah, bien sûr, mais c'est vrai qu'on y pense avec vos grandes années, Nulle part ailleurs, Le Grand Journal à Cannes.
José Garcia.
José, bah peut-être
que vous avez fait sur le plateau, nous.
Ah oui, c'est ça. Ouais. Et est-ce que vous êtes nostalgique d'ailleurs de ces grands dispositifs à Cannes ou pas du tout?
Non, je crois que c'est autre temps, autre mœurs. C'est une autre époque, on a complètement changé. Vous savez, nous, à l'époque où on faisait le Nulle part ailleurs sur la plage du Martinez, ça marchait du feu de Dieu. D'ailleurs, Gilles Jacob n'était pas très content parce que souvent on avait plus de monde devant le plateau qu'au pied des marches.
Ah
ouais. Donc il faisait un peu la gueule. Mais c'était une autre ambiance. Je sais pas comment vous dire. On peut pas refaire à l'infini les mêmes choses.
Oui, bien sûr.
Donc maintenant, on s'intéresse de beaucoup plus près au cinéma, on fait moins de spectacles. Mais après, si d'autres ont envie de le faire, qu'ils y aillent.
Et puis vous disiez, c'est un peu aussi Cannes, tout ce qui se passe autour de ce monde du cinéma. Le cinéma qui est traversé en ce moment par une vague MeToo puissante. L'ambiance sera forcément un peu particulière cette année à Cannes. Mm-hmm. Je ne sais pas s'il y a des choses d'ailleurs que vous pouvez aborder, vous, dans les interviews que vous allez faire à Cannes, où vous vous dites « non, ça c'est pas pour moi, moi je parle uniquement des films
Qu'est-ce
et du
que
cinéma.
Je pourrais ne pas aborder ?»
La vague MeToo, les accusations.
Non, il y a deux choses. Il y a les suspicions, il y a les mises en accusation. Mmh. Ensuite, il y a le passage de la justice.
Ouais.
Moi, tant que les gens ne sont pas condamnés et que c'est juste des rumeurs qui circulent, rien ne m'empêche de parler avec eux et de recueillir leurs impressions à ce sujet. Mais non, je m'interdis rien.
Très bien, et bon, on va suivre ça à Cannes 2024, ce sera donc à 20h55, hein,
oui.
En clair, il faut le préciser aussi, sur Canal, ce sera tous les jours, et puis il y a toujours votre hebdo cinéma aussi,
faut voir
tous les vendredis sur Canal+. Vous savez d'ailleurs si cette émission sera reconduite à la rentrée, vous
évidemment,
savez déjà.
Je l'annonce officiellement.
Évidemment.
On est reconduite pour les 12 prochaines années.
Bah c'est bien ça.
Voilà la bonne nouvelle.
Ça c'est rare les contrats de 12 ans comme ça, dans les médias. Ça
se fait de moins en moins. Restez avec nous Antoine Decaune pour commenter l'actu des médias.
Oui, dans un instant, c'est le journal des médias de Julien Pichenet, et ce matin, on va parler de cette journée spéciale que prépare France Télévisions à l'occasion de l'arrivée de la flamme olympique en France. C'est demain, ça va se passer à Marseille. Et puis on va revenir évidemment sur la carrière télé de Bernard Pivot. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1.
Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et votre invité ce matin. Thomas, vous recevez Antoine Decaune et à 9h50, c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet.
Et comme chaque jour, on commence avec les chiffres. La nuit des Molières a-t-elle résisté à la concurrence hier soir, Julien?
Bon, c'était difficile hein, face à la recrue de Thierry Novick sur TF1 qui a attiré plus de 4 millions de téléspectateurs. Il y avait aussi Meurtre à Belle-Île sur France 3, Marié au premier regard sur M6, qui ont tous deux été suivis par 2 200 000 téléspectateurs. C'était difficile donc, mais face à tout cela, La Nuit des Molières a réussi à dépasser tout juste, mais quand même, la barre du million, 6,8% du public, c'est 200 000 de plus que l'an dernier. C'est même, Thomas, le meilleur score de La Nuit des Molières depuis 6 ans, depuis 2018.
Bah, bravo
et
à
c'était
Caroline
bien.
Vigneault.
Moi j'ai regardé, c'était très bien, c'était dynamique. Le fait qu'elle ait interdit de remercier, du coup ça allait très vite.
Europe 1, le journal des médias.
Et puis on commence ce journal avec cette triste nouvelle. Bernard Pivot, immense figure de la télévision, est décédé à l'âge de 84 ans.
Oui, un style inimitable, une curiosité insatiable, un immense talent pour transmettre le goût de la lecture et de la grande littérature. Bernard Pivot, sa sincérité, son honnêteté, sa capacité aussi à créer des rencontres et des moments exceptionnels sur ses plateaux. Nous y reviendrons dans quelques minutes. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qu'il n'aimait pas, nous a confié son ami de longue date, Philippe Labro, que vous entendrez dans quelques instants. Avec Bernard Pivot, c'est tout un chapitre de l'histoire de la télévision qui se ferme. Apostrophe, bouillon de culture ont marqué des millions de téléspectateurs. Et puis on se souvient aussi de ces fameuses dictées. Thomas, franchement, qui n'a jamais eu un zéro pointé à la dictée de Bernard Pivot?
Moins 20 même.
Antoine Decaune, vous faites partie de ces invités qui se sont rendus un jour sur un plateau de Bernard Pivot. C'était en juin 92 à Bouillon de culture. J'imagine que ça reste un souvenir marquant.
Bah, c'est la personnalité de Pivot qui était à la fois un humaniste, quelqu'un d'ouvert, de tolérant, de curieux, et surtout un passeur extraordinaire. C'est-à-dire qu'il arrivait à faire parler les auteurs et à transmettre, à résumer leur travail, à donner envie aux gens de le lire. Non, c'est un type absolument merveilleux, qui a un très bon sens de l'humour en plus.
Ah oui.
C'est ma femme, Daphné Roulier, qui a trouvé le bon titre ce matin, c'est « Le roi lire ».
Ah, oui, joli. Très beau, joli. Effectivement. Et nous ferons donc une page spéciale consacrée donc à la disparition de Bernard Pivot à 89 ans. Ce sera juste après le journal de 10h. Et puis on parlait de la disparition de l'homme de lettres le plus célèbre de la télévision. On a appris aussi l'arrêt d'une émission mythique qui a passé plus de 5 décennies à jouer avec les mots.
Oui, on va y revenir. Après 52 ans, des chiffres et des lettres vont s'arrêter en fin de saison. Nous en parlions déjà hier. Alors certains d'entre vous pensaient peut-être que ce jeu avait déjà disparu de la grille, étant donné sa place très discrète. Il y a 2 ans, des chiffres et des lettres avaient été transférés le week-end et l'audience était moins forte. J'ai joint Patrice Laffont, présentateur historique du jeu entre 72 et 89. Il produisait d'ailleurs toujours le jeu. Aujourd'hui, l'émotion est vive, mais il s'y attendait. Écoutez.
Et je crois qu'il y a pas mal de gens qui sont tristes, même si maintenant, depuis qu'on était l'après-midi, ça n'avait plus du tout le même écho. Voilà. Mais c'est comme ça. Je n'ai pas été très surpris parce que ça ne sentait pas très bon depuis qu'on nous avait mis sur une voie de garage le samedi et le dimanche. Donc, c'est un coup de tristesse. On m'a prévenu vraiment que vendredi, les choses ont été bien faites parce que je ne l'ai pas appris par la presse, ce qui m'est déjà arrivé dans d'autres circonstances. Donc, ça a été plutôt bien géré du côté du service public et je les en remercie.
Patrice Laffont, présentateur historique des chiffres et des lettres, qui va donc s'arrêter en fin de saison. Il y a une émission finale.
Rassurez-moi, c'est pas par mesure d'économie quand même.
Et si?
Non.
A priori,
une table,
oui.
5 lettres.
Et puis les audiences, c'est vrai, avaient beaucoup baissé.
Oui, mais le public vieillit.
D'autant plus le week-end.
Aussi, oui. Laurent Romeschko nous disait hier que ce qui m'a excité, c'est une émission. Il y a tellement de silence dans cette émission qu'elle a peut-être un petit peu de mal aussi à trouver sa place et son public. Aujourd'hui, il y aura une émission finale en septembre avec Laurent Romeschko. Avec Patrice Laffont, ce sera pas à la fin de la saison. Là, ce sera en septembre, effectivement.
Patrice Laffont, qui sera d'ailleurs l'invité de Culture Média ce vendredi. Ça vous est déjà arrivé, vous, Antoine Decaune, d'apprendre comme ça à la fin d'une émission par voie de presse?
Bien sûr.
Ah oui.
La toute première émission qui s'appelait Chorus, 78-81, j'apprends par la presse qu'elle est supprimée.
C'est très violent.
C'est très très violent. Ouais. C'est très très violent. Et on est très en colère dans ces cas-là.
Et pour le grand journal, ça s'est passé comment?
Non, ça je l'ai appris par mon producteur.
Et ça reste très violent?
Oui, c'est violent parce qu'on était en train de préparer la saison d'après. Donc là,
C'est toujours dur, l'arrêt d'une émission. Ah,
de toute
c'est
façon, la vie dans ce métier, les métiers qu'on fait, là, il faut avoir des nerfs en zircon.
Exactement. Et puis demain, 8 mai, les principales chaînes de télévision seront mobilisées pour suivre l'arrivée de la flamme olympique en France.
Et tous à Marseille, où l'arrivée du baleine est prévue demain, donc en fin de journée. TF1 sera mobilisé toute la journée, tout comme France Télévisions, qui sera la chaîne officielle des Jeux Olympiques. En soirée, sur France 2, il y aura un concert présenté par Laurie Tillman, on en parlait ici même. Les directs commenceront dès le matin avec Télématin, en direct du Vieux-Port. Ensuite, Julien Bugier prendra le relais, il présentera le JT de 13h à Marseille. Il recevra de nombreux invités. Je l'ai appelé pendant les préparatifs, il le dit clairement, il n'a jamais vu un pareil dispositif.
C'est vrai que j'ai pas de souvenir depuis que je suis à France Télévisions, et ça fait plus de 15 ans qu'on ait un tel dispositif, mais évidemment c'est pour un événement tout à fait exceptionnel. On a des caméras divergées, c'est-à-dire qu'ils vont filmer tous les endroits possibles et inimaginables en temps réel. On sera les seuls à être à bord du BLM, caméras GoPro un petit peu partout sur le Vieux-Port, nos envoyés spéciaux qui seront au Vélodrome, à la Bonne Mère pour avoir un angle de vue incroyable, qui seront avec les tifos marseillais qui vont, je sais pas, plus de 200 techniciens, plus de 150 journalistes qui travaillent sur l'événement. Enfin, c'est vraiment un événement XXL.
Ouais, demain, la journée du 8 mai sera donc presque intégralement consacrée sur France TV à l'arrivée de la flamme olympique à Marseille.
Et puis, le célèbre commentateur sportif Patrick Montel va bien commenter des jeux comme il le souhaitait, mais ce ne sont pas forcément les jeux auxquels on pouvait penser.
Non, à partir du 27 mai, la chaîne W9 va diffuser une nouvelle télé-réalité, Les Apprentis Champions, une télé-réalité où 16 candidats devront réaliser des épreuves olympiques. 16 candidats issus de la télé-réalité. Alors au programme 100 mètres, 400 mètres, lancer de javelot, saut en longueur ou encore natation synchronisée. On verra ce que ça donne et leur performance sportive.
Ça risque d'être quelque chose.
En commentaire, on va retrouver donc l'ancienne voix mythique de l'athlétisme, Patrick Montel, qui avait été évincé de France Télévisions en 2019 et qui est sans micro depuis. Alors il ne sera pas seul au commentaire, il sera accompagné de Paga, un candidat bien connu des fans du programme Les Marseillais.
Salut à tous, salut à toutes. J'ai eu Bernard Faure. J'ai eu Stéphane Diagana comme consultant et maintenant j'ai Paga.
Merci.
Et je suis super heureux d'être avec toi. Je te connaissais pas, je te le dis honnêtement, Paga. Je suis pas un fan de télé-réalité, je connais pas bien, mais j'ai découvert un mec fantastique avec toi et je partage avec toi ce bonheur du commentaire. Franchement, on kiffe quoi.
Ouais, ça s'annonce assez insolite quand même ce programme avec Patrick Montel donc au commentaire le 27 mai.
Et puis on termine par cette info, le Festival de Cannes pourrait être touché par une grève.
Bah oui, il y a un collectif qui s'appelle Sous les écrans l'Adèche, un collectif de travailleurs du cinéma qui appelle à la grève de tous les salariés du Festival de Cannes, c'est-à-dire les programmateurs, les projectionnistes, les attachés de presse, les agents d'accueil, les chargés de billetterie, j'en passe. D'après ce collectif qui entend dénoncer les dernières réformes de l'assurance chômage du mouvement, cet appel ne remet pas en cause la tenue du festival lui-même, mais il pourrait fortement perturber l'événement. On se souvient que le Festival de Cannes 68 avec Truffaut et Godard à l'époque avait été écourté.
C'est bien, ça va rendre le Festival de Cannes d'autant plus secoué.
Il va se passer quelque chose. Très bien.
Merci Antoine Decaune d'être venu ce matin au micro d'Europe 1. Et Cannes 2024, c'est donc tous les soirs pendant le festival, en clair sur Canal à 20h55. Et je rappelle aussi, il faut voir l'hebdo cinéma tous les vendredis à 20h25. Merci d'être venu ce matin.
Merci.
Et Culture Média, Thomas, continue après les infos de 10h.
Oui, on va rendre donc hommage à Bernard Pivot avec de grands moments de sa carrière. Et puis on accueillera le roi du polar, l'écrivain Franck Tillier.
Et puis notez que tout à l'heure, de 16h à 18h, Sophie Davant, entourée de ses copains, reçoivent le présentateur de Secret Story sur TF1, Christophe Beaugrand. Et à cette occasion, c'est une émission spéciale secret qui vous attend cet après-midi. Secret d'État, personnages mystérieux, lieux confidentiels, de l'homme au masque de fer en passant par le Watergate. Rendez-vous de 16h à 18h pour jouer et découvrir d'incroyables secrets. Alors le jackpot est tombé hier, 1 800 €, bim, c'est tombé.
Ah oui.
Alors le jackpot repart aujourd'hui à la base à 500 €, mais vous pouvez le tenter en jouant avec Sophie Davant cette après-midi de 16h à 18h sur Europe 1.